Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. On continue évidemment à parler de cette agitation largement teintée d'inquiétude à travers le monde après les droits de douane supplémentaires décrétés par les États-Unis. On est en Thaïlande dans ce journal, parmi les pays les plus touchés, mais pas parmi les plus inquiets pour autant, vous l'entendrez. Dans ce journal également, de nouvelles frappes israéliennes cette nuit au Liban. Comme en Syrie. La Libye, qui expulse 10 ONG internationales, Médecins sans frontières en fait partie et le regrette. Et puis on sera aussi en Colombie, où l'État veut venir en aide aux orphelins des féminicides. Ouverture dans le rouge ce matin pour les bourses européennes. Moins 0,69% pour celle de Paris, moins 0,8% pour Francfort. Une baisse légère quand même, les marchés financiers se remettent tout doucement du véritable choc douanier annoncé mercredi par Donald Trump. 10% de droits de douane pour tout le monde ou presque, et puis d'autres droits de douane supplémentaires pour de nombreux pays, jusqu'à 34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne. La guerre commerciale est officiellement lancée, même si Donald Trump préfère se voir en docteur plutôt qu'en soldat. Pour lui, l'économie était un patient malade, mais elle va finir en pleine forme, dit-il. La Thaïlande, elle, fait partie des pays lourdement frappés, 36% d'augmentation pour ces nouvelles taxes douanières. Alors forcément là-bas, les secteurs de l'industrie électronique et automobile s'inquiètent, secteur clé hein, parmi les plus gros exportateurs en Thaïlande. Pourtant, à Bangkok, les autorités se veulent rassurantes et essaient même de transformer cette annonce en opportunité pour remettre à plat les relations économiques et diplomatiques avec les États-Unis. Reportage de Carole Izou.
Dans les rues de Bangkok, malgré un tremblement de terre récent et l'annonce de nouvelles barrières douanières américaines, qualifiées par certains éditorialistes de tremblement de terre économique, l'ambiance est à l'apaisement. Jeudi 3 avril, la première ministre Petong Tan Chinawat est apparue devant la presse pour appeler les communautés d'affaires, notamment le secteur électronique et automobile particulièrement touché, à la confiance. Il y aurait là l'opportunité, dit-elle, de remettre à plat les relations économiques et diplomatiques avec les États-Unis.
Il ne faut pas s'inquiéter, le gouvernement a un plan déjà prêt. D'abord, il s'agit de déterminer à quel niveau politique on doit discuter de ces barrières douanières. Nous pensons qu'il faut en discuter au plus haut niveau de l'État. On peut s'entendre avec les États-Unis si on trouve une façon de mieux structurer les taxes.
La Thaïlande n'est pas le seul pays de la zone à être affecté par ces taxes. 46% pour le Vietnam, 49% pour le Cambodge. La presse locale appelle à une réaction concertée des pays de la zone ASEAN. Le dossier des barrières douanières pourrait même être une occasion pour cet espace économique de se structurer politiquement sur le modèle européen. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
Et l'Indonésie, taxée elle de 32%, réagit ce matin par la voix de son ministre des Affaires étrangères qui lui aussi adopte un ton plutôt conciliant. Pour lui, l'offensive douanière de Donald Trump est une déclaration d'ouverture qui doit permettre à son pays de négocier directement avec Washington. Réaction moins optimiste au Japon où l'on parle d'une crise nationale. Le Fonds monétaire international alerte de son côté sur un risque important pour les perspectives économiques mondiales. De nouvelles frappes cette nuit à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des frappes russes, au moins 4 morts et une trentaine de blessés. Et Moscou continue aussi de frapper les infrastructures énergétiques en Ukraine. Ça, ce sont Paris et Londres qui le disent, alors que la Russie, comme l'Ukraine, se sont engagés à respecter un cessez-le-feu à minima pour cesser de frapper les infrastructures, souvent prises pour cible depuis le début de la guerre. Paris et Londres qui annoncent aussi que leurs chefs d'état-major militaire seront à Kiev aujourd'hui. Ils veulent venir discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. En cas de trêve permanente. Autre trêve, celle en vigueur depuis le 27 novembre entre Israël et le Hezbollah. Et malgré cela, l'armée israélienne annonce ce matin avoir tué un cadre du Hamas au Liban, ainsi que ses deux enfants dans la région de Saïda, dans le sud du pays. C'est leur appartement qui a été visé. Cet homme, Hassan Farhat, avait orchestré de nombreuses attaques terroristes contre des civils et des soldats depuis le début de la guerre à Gaza. C'est ce qu'explique l'armée israélienne, qui annonce aussi ce matin avoir commencé une offensive au sol dans l'est de Gazaville. L'armée de l'État hébreu qui a aussi frappé deux positions militaires hier soir en Syrie, cette fois en périphérie de Damas. La veille déjà, la soirée avait été marquée par 24 frappes à travers tout le pays. 13 personnes avaient, elles, péri lors d'une incursion terrestre dans la province de Deraa, dans le sud syrien. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante à Damas. La communauté internationale commence, ça y est, à réagir à ces attaques qui se répètent.
À commencer par l'ONU, son envoyé spécial Guy Pedersen a appelé hier l'État hébreu à cesser ses attaques qui sapent les efforts visant à construire une nouvelle Syrie. De leur côté, les autorités syriennes ont accusé Israël de vouloir déstabiliser le pays. L'État hébreu y a mené des centaines de frappes depuis début décembre et la chute de Bachar al-Assad. L'objectif affiché par Tsahal est clair, empêcher les nouvelles autorités qualifiées de djihadistes de disposer d'un arsenal militaire suffisant pour semer le trouble dans la région. Le ministre israélien de la Défense a ainsi averti hier le nouveau président syrien. Il paierait un lourd tribut si la sécurité d'Israël était menacée. En sous-main, l'État hébreu essaie surtout de contrer l'influence grandissante de la Turquie dans le pays. Mercredi soir, Israël a dans ses nombreuses frappes ciblé une base aérienne dans la province de Homs. La Turquie prévoyait d'y établir de nouvelles positions militaires. Autre point de préoccupation, les incursions de plus en plus fréquentes dans le sud du pays. Mercredi soir, une dizaine d'habitants de la province de Dera ont été tués. Ils avaient pris les armes pour empêcher Tsahal de pénétrer dans leur village. Déjà en février, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait exigé la démilitarisation totale du sud du pays. Manon Chaplin à Damas, RFI.
Médecins sans frontières affirme avoir toujours travaillé en collaboration avec les autorités libyennes. Incompréhension de MSF qui fait partie des 10 ONG humanitaires internationales dont les activités sont suspendues en Libye et qui doivent fermer leur siège à Tripoli. L'annonce a été faite mercredi par le ministre libyen de l'Intérieur, qui les accuse d'activités hostiles. Alexandra Brangeon, il leur reproche notamment de promouvoir des valeurs contraires à celles de la Libye, mais aussi de favoriser le trafic de migrants et le blanchiment d'argent.
Selon les autorités libyennes, sous couvert d'action humanitaire, ces ONG mènent des activités qui portent atteinte à l'intégrité de l'État et à la sécurité intérieure. Il leur est notamment reproché de promouvoir l'athéisme, la chrétienté, l'homosexualité, la décadence morale et surtout, à travers leurs programmes d'aide, de favoriser l'installation de migrants d'origine africaine en Libye. Salem Ghed, porte-parole de l'autorité de sécurité intérieure.
Ces organisations ont apporté un soutien à des migrants illégaux, leur fournissant de la nourriture, des vêtements, des médicaments, ce qui encourage ces migrants à considérer la Libye comme une destination finale et non pas comme un pays de transit. Ce projet d'installer des migrants d'origine africaine dans notre pays représente une activité hostile. Elle vise à modifier la composition démographique du pays et menace l'équilibre de la société libyenne.
Cette décision des autorités libyennes inquiète les acteurs humanitaires. Le pays accueille actuellement plus de 85 000 réfugiés enregistrés auprès du HCR, principalement en provenance du Soudan, et qui dépendent largement de ces organisations internationales.
Alexandra Brangeon. En Corée du Sud, le portrait du président Yoon Suk-yeol ne trône plus dans toutes les installations militaires du pays, pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus le président. Sa destitution, prononcée par les députés en décembre dernier après sa tentative d'imposer la loi martiale, a été confirmée, cette destitution, à l'unanimité par la Cour constitutionnelle. Une élection présidentielle anticipée devra se tenir dans les 60 jours. En parallèle, le procès de Yoon Suk-yeol pour insurrection se poursuit au pénal. Il encourt toujours la peine de mort. On part en Colombie, un pays où au moins une femme est assassinée chaque jour. Il y a ces femmes qui meurent et puis il y a aussi ces enfants qui, eux, perdent leur mère. Ils étaient plus de 23 000 dans ce cas-là au cours de la dernière décennie. Des jeunes filles et des jeunes garçons qui se retrouvent seuls à la charge de leur famille ou d'institution. C'est pour les protéger, eux, ces orphelins par féminicide, qu'une loi vient d'être adoptée dans le pays pour leur assurer un avenir. À correspondance de Najet Benrabah.
Il n'existe pas de chiffres officiels sur les féminicides en Colombie. Mais d'après le Défenseur du Peuple, l'an dernier, 745 féminicides ont été signalés. C'était l'année la plus meurtrière depuis le début du recensement de ces délits en 2018. Alors, la nouvelle loi permettra une meilleure prise en charge des enfants et adolescents qui dépendaient économiquement d'une mère victime de féminicide. Le texte stipule qu'ils auront un accès préférentiel à des programmes d'éducation et à des soins psychosociaux et de gestion du deuil, en plus d'une assistance financière régulière. Un système de protection est aussi prévu concernant cette aide financière, l'idée étant d'éviter qu'elle ne se retrouve entre les mains du père, qui est souvent l'auteur du féminicide. L'âge maximum pour bénéficier de ces prestations est de 25 ans. Cette loi donnera aussi naissance à un registre des enfants et adolescents orphelins par féminicide afin de permettre une surveillance continue du mineur et d'assurer sa protection. Le Congrès a donc voté cette loi ce mercredi. Il ne manque plus que la signature du président pour l'officialiser. Najet Benrabah, Medellin, RFI.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition 10h10 à Paris, 2h de moins en temps universel. Appelez-nous, exprimez-vous. C'est la Libre Antenne avec vous, Juan Gomez.
Et les auditeurs de RFI, bien évidemment. Merci Gaëtan Plein Air. Reste à l'écoute de RFI dans tout juste de 30 secondes. Vous aurez la parole. À tout de suite.